Alors, on s'est posé la question avec Willy qu'on va quand même, par rapport à oser la confiance, donner quelques clés de lecture qui pourraient être intéressantes. Alors, si je peux le faire simple, la confiance, elle a été déjà abordée par passablement de disciplines. Tout simplement, on est dans le milieu économique, il faut quand même savoir que, par exemple, l'économie, qui est avec son emblème de l'argent, où l'argent, finalement, est un système dans lequel on pose une confiance partagée par rapport à la valeur accordée à un bien. Juste y penser que, quelque part, ce bout de papier qui se promène et ces transactions virtuelles, c'est qu'un système de confiance collectif. Maintenant, il a été aussi mis à mal, hein. Les religions, et là, c'est peut-être Alain qui en parlera peut-être mieux, par exemple, la religion chrétienne, elle qui considère la foi comme finalement une confiance inconditionnelle. On dit quelque part, c'est un amour à une personne qui a donné sa vie. C'est ça l'idée. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, je n'irai pas plus loin, vous en avez un, vous en avez sûrement d'autres ici dans la salle. Les sciences politiques, elles, qui s'intéressent à la confiance d'un peuple en un système de gouvernance, d'un État. Donc on a quelque part le duo confiance-justice. Peut-être que tu pourrais en dire plus de mots avec ton origine aussi de formation en tant que juriste. Mais tout ça, je ne vais pas l'aborder, j'ai fait un choix qui vient de ma propre origine de formation. C'est la psychologie et les neurosciences qui décryptent quelque part la confiance en soi, et aussi la psychologie sociale et la sociologie qui s'intéressent à la confiance partagée dans un collectif pour avoir un impact, en clair d'être performant. Donc ça, en tant que psychologue du travail et des organisations, c'est là qu'on se retrouve, c'est là qu'il me faudra la zapette, elle est là, voilà. Alors j'ai choisi de finalement partir là-dessus et vous donner peut-être trois grilles de lecture en lien avec la confiance en soi, la confiance en les autres et l'élément spécifique de l'équipe, et la confiance en l'organisation. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui peuvent nous donner certaines références sur lesquelles on pourrait se baser? Mais tout d'abord, la confiance, comme le disait Niels Birbaumer, qui est un chercheur en neurosciences, il le dit très clairement, il dit finalement la confiance, c'est déjà un sentiment extrêmement risqué. Parce que potentiellement, on peut être trompé, trahi, voire être abusé. Tu as parlé, je fais confiance à mes amis qui me montrent ça, je peux mettre ma vie en jeu. Donc potentiellement, c'est quand même un sentiment extrêmement risqué. Au sens strict du terme, tu l'as nommé ce matin Alain, c'est cum fidere, pour ceux qui ont fait du latin, bref, qui signifie finalement confier quelque chose de précieux, soit à quelqu'un ou quelque chose. Et donc quelque part dans l'étymologie, on est dans l'autre aspect, c'est un sentiment de sécurité, on aimerait se fier, on aimerait s'abandonner. Donc je dirais que tout au démarrage déjà le mot contient en lui-même cette tension entre c'est sacrément risqué, mais quelque part il y a quand même une certaine sécurité. Et on tanque tout le temps là derrière. Sous le regard justement de la confiance en soi, on peut l'aborder de la manière suivante. En tout cas, de le poser, qu'est-ce qui se passe là derrière? Il y a chaque fois cette tension entre les deux. Il faut savoir que notre cerveau, à la naissance, il est fait pour avoir peur. Simple, pas jusqu'à l'âge de 2 ans, de toute manière, on n'arrive pas à survivre. Et on a besoin des autres pour pouvoir quelque part grandir. Et à 2 ans, plus ou moins, on arrive à se lever, à plus ou moins déguerpir. On ne sait pas tout à fait encore marcher. Marcher, oui, ça démarre, mais parler. Mais on arrive plus ou moins à survivre. Nous sommes les seuls animaux, si je veux dire mammifères, qui ne sont pas capables, avant l'âge de 2 ans, de se débrouiller tout seul. Donc le cerveau, il est vraiment câblé à ce qu'ils disent d'abord « j'ai peur ». Et la confiance en soi s'acquiert quelque part durant l'enfance. Et c'est une construction, elle n'est pas définie au démarrage. Et la confiance en soi, et c'est là que je deviens un peu technique, pas qu'on se perde, c'est en fait un circuit neuronal entre le siège des émotions et celui du jugement. Je vais le faire simple, nous avons tous un chou-fleur dans la tête. Au centre du chou-fleur, on a un système limbique, c'est le siège des émotions, qui a quelque part un système neurovégétatif qui nous gère le fait qu'on respire, qu'on puisse à un moment donné avoir le cœur qui continue à battre. La nuit, vous vous couchez sans penser à faire battre votre cœur ou respirer. Donc ça, c'est sacrément autonome. Le siège des émotions et l'amygdale au démarrage, il est là pour dire attention, faut que j'ai peur, faut que je déguerpisse, faut que je fuis, ou qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est vraiment basiquement ce système-là. Nous avons ensuite un cortex et un néocortex. Vous savez, le chou-fleur, il a un centre, mais il a plein de trucs autour. Et ça se construit avec le temps. il est présent, mais il doit être câblé quelque part. Donc c'est ce qu'on apprend en tant que petit. Donc le chou-fleur, c'est le centre, c'est le système limbique, système des émotions. Et là, on a le lobe frontal. Et ce qui est assez sympa, le lobe frontal se développe et se finalise dans son développement seulement entre 20 et 25 ans. Donc, aux États-Unis, par exemple, ils se posent la question, est-ce qu'au niveau justice, c'est à 18 ans qu'on peut faire confiance aux jeunes, ou c'est plutôt entre 20 et 25 ans? Les neuroscientifiques diraient, non, non, ça ne marche pas encore, ils ont trop d'actions risquées, les jeunes. Ça va, t'as passé, hein? On est d'accord. Comme ça, vous devinez l'âge. Alors, quelque part, ce câblage-là doit se faire. Et ce qui est génial, c'est que dans notre enfance, ça se construit. Nos parents, notre entourage, nous permet à comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel, donc une réaction physiologique à quelque chose qui se passe, et essayer de mettre des mots là-dessus. Donc, c'est un serpent, fais-toi pas de soucis, il ne va pas te mordre. C'est une araignée à 8 pattes, c'est différent de nous, mais ça ne va pas te mordre non plus. Là, attention, il y a une voiture qui passe, donc c'est nous qui sommes le pilote automatique de nos jeunes. C'est peut-être ça que tu as fait, Vincent, avec tes enfants. Donc, on pose des mots sur les aspects émotionnels. Et le câblage qui se fait entre les deux, c'est ce qu'on nomme les circuits neuronaux. Gerald Hüther, et c'est le seul professionnel là derrière qui m'a, c'est un neurobiologiste qui a écrit simple et qui a écrit assez spécifique, disons compréhensible pour tout le monde, il dit que le câblage est en fait un système d'autoroute qui se met en place dans notre cerveau. En clair, on engage quelque chose et si ça s'est engagé et que ça marche, ben on continue à l'utiliser. Je vais vous donner l'histoire du petit Paul à 8 ans qui lui, pour expliquer comment ça se passe, il a fait un effort assez important, il a passé un examen, il a une mauvaise note, il rentre à la maison et les parents lui disent, ils n'y peuvent rien, ils sont stressés par le travail, ils disent, mais t'es nul Paul quand même. Donc lui, sentiment, j'ai fait un grand effort, je suis nul. Je vous le fais vite, si ça perturbe à travers le temps, il y a quelque chose qui va se mettre en place en disant, dès que je fais un effort, ben, je suis nul. Ça s'appelle sentiment. L'impuissance apprise de Seligman, c'est encore un autre élément qui peut être intéressant. Et donc, quelque part, le petit Paul, il va se dire, chaque fois que je fais un effort, de toute manière, je suis nul. Donc, il a engagé des autoroutes, des priorités de câblage, qui va remettre, c'est ces fameux schémas, et tout va bien, entre 20 et 25 ans, ça se stabilise, et à un moment donné, on a quand même, quand on va quelque part et on veut aller vite, puisque notre société est très vite, bon, on prend l'autoroute dans laquelle on a toujours été. Rassurez-vous, pas tout est joué à 25 ans. On a le câblage qui peut être remis en place, mais il faut le décider. Quelqu'un l'a dit ce matin, il faut décider décemment de ne pas reprendre les mêmes circuits. Donc, à un moment donné, ce jeune Paul, qui à l'âge de 20 ans, a un patron qui croit en lui, en clair, il le voit fonctionner, il a remarqué qu'il était bon, il a une certaine performance, il lui dit, écoute Paul, là tu viens de faire une activité que j'ai trouvée magnifique comme tu l'as fait, tu l'as fait de telle et telle manière, c'est exactement ce que j'attendais. Et en plus, là, tu pourrais avoir un potentiel développement. Donc, en clair, tu pourrais faire ça autrement. Paul, tout à coup, l'autoroute première qui était nulle, il se dit, je fais un effort, lui, il croit en moi. Donc, c'est là que l'autre peut être quelqu'un qui peut nous permettre de reprogrammer les choses. Donc, le Paul en question, grâce à d'autres, va à un moment donné pouvoir reprogrammer le système aussi. Ceci pour dire que la confiance en soi, c'est finalement comme un muscle qui se renforce à travers l'action. Ça a été dit ce matin, ça ne sert à rien de réfléchir, il faut passer à l'action, il faut y aller. Mais il faut un deuxième ingrédient, il faut une certaine action, expérience réflexive. Si on y va toujours, si vous voulez aller depuis ici à B, moi je prends l'autoroute, j'y suis plus vite. Mais c'est sûr que si je décide d'aller par ailleurs, il faut que je me rappelle à la sortie ici à Chèbre qu'il faut que je prenne les petits chemins par les vignes pour pouvoir aller ailleurs, pour engager des nouveaux systèmes neuronaux. D'autres peuvent nous aider, les exemples peuvent nous aider, des gens qui croient en nous peuvent nous aider, les autres peuvent nous tendre la main. Donc ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance traumatisante qu'on ne peut pas s'en sortir, on parle de résilience, on est tout à fait capable de sortir de là. Confiance en soi, et maintenant confiance en l'autre. C'est la deuxième clé de lecture. La confiance en l'autre, je pense que tu as déjà dit beaucoup de choses, il y a été passamment de choses qui ont été dites. Ce matin, tu as parlé des études qui ont été faites en lien avec l'équipe. Mais la confiance en l'autre, c'est un peu cette image. Si à la base, j'ai déjà peur qu'il m'arrive quelque chose, faire confiance en l'autre, c'est quelque part lâcher prise, s'abandonner. Il y a eu un mot là-bas ce matin, lâcher prise. Donc quelque part, c'est un lâcher prise, c'est de considérer consciemment que la relation comme étant assez sécure pour que je me risque dans un comportement qui n'est pas celui qui est mon habitude. Donc quelque part, il y a une chose qu'on va faire, c'est qu'on va tester la relation. Et on va essayer de voir si l'autre continue à nous apprécier, à être là, même si on fait des erreurs. Comment gérer les erreurs au sein des organisations ? On dit la culture, il y a l'erreur qui est tout à fait acceptée, mais deux minutes après, à un moment donné, on va dire « mais tu n'as pas le droit de faire d'erreur » ou même des systèmes juridiques qui nous disent « si tu fais une erreur, tu es catalogué et donc à un moment donné, tu vas être un mauvais professionnel. » Cette capacité à s'abandonner à l'autre, c'est vraiment tester cette relation et vous la testez tout le temps finalement. Dans l'équipe, on parle vraiment d'un concept, on en a parlé ce matin, du concept de sécurité psychologique. Et c'est un peu mon dada, l'équipe. J'ai lu, fait pas mal de choses au niveau de l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont essayé, comme tu l'as dit ce matin, de trouver si telle personnalité avec telle personnalité est ensemble, si on a telle condition cadre, si on a bien défini le but, si on a fait des processus de travail. Super, on va être une équipe performante. C'est toujours la question. On a un slogan actuellement qui est intelligence collective, mais en clair, la majorité des études, il faut quand même le dire, c'est que la somme des performances individuelles est souvent plus petite que, disons, le collectif est plus petit que la somme des potentiels individuels. Les études le montrent. On a la foi que le collectif est meilleur, mais il y a un seul ingrédient qui est vraiment le ciment des performances collectives, c'est cette sécurité psychologique. Je vais l'expliquer, là elle est notée, et ma amie Edmondson l'a précisé comme ça, c'est une croyance partagée, donc on est de nouveau dans une croyance, que les membres d'une équipe, donc la croyance du membre d'une équipe, partagée par les membres d'une équipe, que cette équipe est assez sécure pour prendre des risques interpersonnels. Concrètement, quand vous êtes dans des séances collectives, est-ce que la sécurité psychologique, ça veut dire que j'ai le droit de dire que j'ai fait une erreur ? J'ai tout à fait l'impression de pouvoir poser des questions bêtes sans avoir l'impression d'être jugé. C'est pouvoir, à un moment donné, challenger mon collègue en lui disant « je ne suis pas d'accord avec toi », donc quelque part de le titiller au niveau interpersonnel. Je ne sais pas, même moi, des fois, je rencontre des séances où tout le monde est dans la logique de « je garde ma face ». Je dis ce que je sais, je ne vais surtout pas plus loin. Donc là, la performance collective est moins que la somme des performances individuelles. C'est vraiment les études le précisent et le montrent. Et la sécurité psychologique, c'est que l'être humain, à la base, il a besoin de tenir une face. C'est bête, mais on a besoin, tu disais, d'images. Je n'ai quand même pas avoir l'air bête ici devant pour raconter n'importe quoi. Donc je vais faire en sorte de m'assurer sur mes compétences. Maintenant, pour aller au-delà de mon, disons, d'aller dans mon potentiel et d'aller dans une logique d'apprentissage, c'est uniquement si j'ai un collectif dans lequel je peux, à un moment donné, faire des choses qui ont l'air bêtes, que je n'ai pas réfléchi jusqu'au bout, mais que je teste, et qu'à un moment donné, je puisse faire des erreurs. C'est ça la sécurité psychologique. Maintenant, on ne peut ni l'injecter, ni le décréter dans une équipe, et c'est bien ça la difficulté. Oui, c'est une fondation de base, on y croit, mais il y a quelques ingrédients qu'il y a besoin. Il faut un objectif commun, il faut une tâche commune, il faut une autorité convaincante, tous les ingrédients au niveau collectif. Mais cette sécurité psychologique est vraiment quelque chose, je dirais, dans l'autre sens, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui émerge grâce à, et comptant là, ça vaut la peine de capitaliser là-dessus. Donc individuellement, on l'aperçoit, on peut tester la relation et ça fonctionne. Un dernier point que j'avais envie d'aborder, c'était le troisième. J'en perds l'organisation. Ça a réveillé tout le monde, c'est bon. Je vais juste devoir le remettre. Et je pense qu'il a pris... C'est bon. Le dernier pôle que j'ai envie de vous partager sur la confiance dans les organisations, donc c'est vraiment l'organisation. En fait, on n'a pas confiance en une organisation dans l'absolu, parce que l'organisation dans l'absolu n'existe pas. Les gens ont confiance en les personnes qui dirigent, qui mettent la stratégie, qui mettent des objectifs communs, et qui la conduisent, donc finalement, qui organisent le travail. On a parlé ce matin, plusieurs mois, il y a quelque part des directions et à un moment donné, une organisation du travail. Et c'est donc plutôt dans ces personnes-là qu'on a confiance, ça peut être un collectif comme ça peut être une personne. Une organisation, au final, c'est qu'une mise en lien d'individus en vue d'une mission. Rien de plus, avec des formes organisationnelles bien différentes. Et pour atteindre cette mission, bien sûr qu'il faut des processus de travail, il faut la logique de résultat, est-ce qu'il y a des objectifs et comment est-ce qu'on les évalue. Et surtout, il y a besoin d'application de normes et de valeurs pour qu'on sache comment finalement on fait les choses. Et ce qui est le plus important, ce n'est pas tellement la forme organisationnelle, est-ce qu'on est agile ou pas, est-ce qu'on a une gouvernance partagée ou est-ce qu'on est hiérarchique, c'est plutôt la prédictibilité, donc l'attente d'une personne que l'organisation agira de manière prédictible, compétente et bienveillante. Ça veut dire quoi, prédictible? C'est-à-dire que je sais, même en cas de coup dur, que les processus décisionnels et comment est-ce qu'on va s'y prendre. C'est-à-dire que je sais à l'avance ce qui va se passer. Donc le mot transparence revient souvent, c'est vraiment ça. Moi, je peux prédire. D'un autre côté, il faut que ce soit compétent. En clair, il vaudrait mieux que ce soit aligné avec les compétences du métier et du secteur d'activité, de la région dans laquelle on est, par rapport aux normes même légales et ce qui se fait en termes de métier. Donc le métier est important au niveau compétences. Et bien sûr, la manière, la bienveillance, c'est pas on est gentil avec tout le monde, mais c'est de manière respectueuse et explicite. Donc cet élément de transparence revient à ce niveau-là. Et par rapport à ça, la prédictibilité, la compétence et la bienveillance n'est pas raccrochée à un certain modèle d'organisation. On peut être autant prédictible, bienveillant et compétent lorsqu'on a une logique d'un patron qui a dit les choses et qui les dicte, mais on sait que c'est lui qui décide. Le jour où il y a la crise et qui part en courant, là ça ne devient pas prédictible et on lâche la confiance en l'organisation. D'un autre côté, on peut avoir des organisations où on a une gouvernance partagée et eux ont défini une manière de processus décisionnel et lors d'un coup dur, tout à coup, c'est quand même une seule personne qui prend la décision. Donc cette incohérence fait qu'on casse finalement une confiance qu'on pose dans l'organisation. C'est vraiment ces ingrédients-là qui font qu'on a une organisation où on a, disons, une confiance forte en l'organisation ou plutôt faible. La boussole est pour moi une image que j'avais envie de transmettre aussi, puisque la boussole est en fait un instrument a priori assez simple d'utilisation, qu'on peut tous utiliser. C'est très ancien et ça a permis à des explorateurs d'aller découvrir d'autres continents. Donc quelque part, c'est un instrument simple, mais sur lequel on peut aller pas mal loin en termes de confiance. Le dernier point est... Je voulais partir sur une étude qui a été faite par Antoinette Weibel à Saint-Gall, donc au HEC. Elle s'était intéressée avec ses équipes en disant « Mais est-ce que quelque part, si je fais confiance, je peux lâcher le contrôle ?» Tu l'as dit ce matin, ça m'arrange de ne pas contrôler, d'où j'ai le plaisir de finalement faire confiance. Son étude est assez claire, la synthèse est posée là, c'est que le contrôle organisationnel, et je vais expliciter ce que c'est, est liée positivement à la confiance des collaborateurs et collaboratrices dans l'organisation. Donc, quelque part, le contrôle organisationnel, en fait, fournit aux collaborateurs la prédictibilité face aux événements extérieurs grâce à ce qu'on nomme une application universelle de règles. C'est ce que je venais de dire avant. Donc, en clair, ça permet à ce que les collaborateurs se disent « il y a un traitement cohérent des difficultés rencontrées ». C'est pas moi, dans mon endroit, j'aurai telle sanction et l'autre, il aura tel bonus, si j'ose dire, mais que ce soit cohérent. Ça donne aussi une certaine légitimité des décisions. Nathalie Bourquenou nous a dit ce matin, il faut avoir une logique organisationnelle et assurer un certain contrôle pour que pas chacun puisse prendre ses décisions à droite à gauche, donc pour qu'on ait une application systématique et transparente des critères établis. Et c'est aussi rassure les collaborateurs quant à l'application de normes et de valeurs, on n'arrête pas d'en parler depuis ce matin, communes, surtout quand il y a des situations imprévisibles. On ne peut pas tout prévoir, mais la manière dont on va le résoudre, pas uniquement au niveau décisionnel, mais dans les valeurs, est finalement un ciment aussi important. Donc, le contrôle organisationnel, c'est pas « je vais vérifier comment tu fais le travail au quotidien et dis-moi quand est-ce que tu pars à 6 heures parce qu'il fallait que tu restes jusqu'à 6h30 », c'est pas mettre un système de timbreuse en place, c'est pas non plus faire des entretiens d'évaluation tous les 2 mois, c'est quelque part avoir la garantie que certaines personnes ou un gremium de personnes sont là pour remettre finalement de l'ordre. Ça me rappelle quelqu'un qui avait mis en place dans le système d'un hôpital, avait clairement dit par rapport à des situations de mobbing, tolérance zéro. Mais tolérance zéro, ça peut être un discours politique, mais tolérance zéro, ça veut aussi dire que dans un système où il y a peut-être des difficultés pour à un moment donné, surtout avec certains contrats, de les arrêter, c'est lorsque ça se passe, c'est directement stop. Donc ce n'est pas confiance en l'organisation, c'est être gentil avec tout le monde, c'est être justement dans un contrôle organisationnel sous cette forme-là. On peut se poser la question pour chacun, mais tu as posé des belles questions avant, c'est par rapport à la confiance en moi, actuellement, où est-ce que je vois un risque sur lequel je peux peut-être travailler avec mon muscle ? En disant, tiens, je peux peut-être voir d'autres manières de faire pour que ça devienne plutôt un sentiment de sécurité. Ça, c'est au niveau de confiance en soi. Ce matin, j'ai eu un échange qui disait, mais lorsque le matin, je me lève, sur quoi je me base pour avoir confiance en moi ? Ou est-ce que c'est sacrément risqué d'aller annoncer certaines choses dans mon organisation ? Je me base sur quoi ? Le risque par rapport aux autres, est-ce que j'ai, quand je suis en collectif dans une équipe, est-ce que c'est plutôt risqué pour l'instant ou un sentiment de sécurité, et quelque part de juste le nommer, pas le faire de manière générique, mais de dire actuellement dans mon équipe et dans mon collectif, qu'est-ce qui se passe ? Je reprends l'exemple de ce temps que tu as passé en lien avec ton président de conseil de fondation pour dire là, on a besoin de faire un check et expliciter ça, pour que ce sentiment risqué devienne quelque chose de sécure et que même un budget qui a été posé d'une certaine manière, on puisse le rembobiner en termes de sécurité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est absolu. Et de l'autre côté, dans l'organisation, la question aussi, où est-ce que je perçois des aspects où c'est risqué, moi en tant que dirigeant, et que j'ai besoin d'un certain système de contrôle, comment je le mets en place, et à certains moments, sur quels endroits et quels aspects de l'organisation je peux vraiment bâtir au niveau sécurité. Voilà quelques clés de lecture que j'avais envie de vous partager, qui, je pense, sous une autre forme, disent un peu la même chose qui a été dit par nos entrepreneurs. En tout cas, je me rends compte ça maintenant, ce n'était pas prévu à l'avance. Voilà, c'était pour mes messages.
Merci beaucoup, Sybille. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter ou a une question à Sybille ? Michael.
Merci beaucoup pour ces quelques éclairages. J'ai une question qui est peut-être... la réponse est peut-être déjà dans la question, mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Il faut de la confiance pour établir des relations, mais il faut des relations pour construire la confiance. On commence par quoi ? Comment ça fonctionne ?
Par le premier pas. Il faudrait peut-être aller vérifier chez Liel comment il fait. Mais dans ma pratique d'accompagnement, que ce soit dans des collectifs, équipes, organisations en phase de transition qui poussent vraiment les gens dans des situations dites inconnues, c'est pas risqué, mais inconnues, la question elle est vraiment, pour moi, c'est vraiment revenir sur un premier pas concret, donc une première action. Et tout de suite faire la même chose en disant « mais comment est-ce qu'on l'a fait pour le mettre en place ?» Ça, c'est vraiment un aspect qui couple directement les deux. On passe à l'action et ensuite, on vérifie que dans les équipes, c'est on met un nouveau mode de fonctionnement en place, mais un qu'on peut mettre en place à partir de demain. Et d'ici 3 ou 4 séances, souvent 4 séances, il faut que ça le temps, on fait une boucle réflexive de 10 minutes en disant « comment ça passe pour vous ?» Donc, quelque part, on fait, on apprend et on met en place en termes d'avancement. Ça, c'est pour permettre, en tout cas, ça, je dirais, c'est mon retour. Et on ne peut pas être dans une logique l'un et ensuite l'autre. c'est coupler les deux en même temps. Mais l'action, donc c'est un peu le système neuronal, c'est qu'à un moment donné, je décide consciemment, et en collectif aussi, en organisation, on engage quelque chose. Vous n'allez jamais avoir tout le monde qui vous suit, mais vous allez à un moment donné dire, on a fait le premier pas, et le deuxième et le troisième. La confiance, je disais, c'est qu'on le gagne en millimètres et on le perd en kilomètres. Il y a quelque chose de... Alors, je vais peut-être dire ça. C'est un peu des termes au niveau confiance générique. La question là derrière, c'est que si on n'a pas tellement confiance, notre cerveau, il fait une chose très simple. Il n'a pas confiance en les choses qu'il ne connaît pas. Donc, il n'a pas confiance en des apprentissages qu'on n'a pas faits. Donc, apprendre quelque chose de nouveau, un maître d'apprentissage est là pour nous soutenir et nous donner une sécurité extérieure par rapport à un apprentissage qu'on ne fait pas. Donc, c'est plus le mot apprentissage de quelque chose de nouveau que vraiment confiance ou non-confiance. Je donnerai ça comme éclairage selon mon point de vue.
Avec plaisir. Je pense qu'on ne reçoit rien sans donner. Plus on donne, plus on reçoit. Et pour moi, la confiance, ça fonctionne comme ça. Il faut donner sans attendre en retour. Et un jour, il se trouve que la personne nous fait confiance. Et c'est pour ça que je disais avant, je partageais l'analogie du gâteau, où je trouve que la confiance, on ne peut pas construire quelque chose, construire un projet, une entreprise ou une relation, et puis espérer y rajouter de la confiance par-dessus comme la cerise. C'est l'entier de la chose, et je pense que c'est simplement quelque chose qu'on... Ça vient de nous. On peut que donner de la confiance autant que possible, et c'est uniquement comme ça que les gens nous feront confiance. Je pense qu'il y a, pour moi, ça se résume à ça. Et voilà. Et c'est écrit dans tous les livres, dans la Bible, dans tous les données que vous recevrez. Voilà.
Merci, Liel. D'autres compléments ou des questions ? Oui, s'il te plaît. Merci beaucoup pour votre exposé très clair, qui me parle beaucoup. Moi, je pense beaucoup, j'attribue une grande importance au rôle modèle. En fait, pas seulement dire ce qu'on fait, mais faire ce qu'on dit. Comment vous vous situez, ou vous mettriez ça où dans...
La confiance en soi, moi, je le poserai du côté de la confiance en soi. On a eu le premier modèle qui sont souvent nos parents d'une manière ou d'une autre, avec tout le bon et le mauvais côté qu'on a. C'est le premier sur lequel on a un mimétisme. On le sait dans la lignée des leaders, quand on fait une formation de leader et on construit finalement un parcours de leader, parce qu'un leader, en clair, il fait rien à part conduire. Disons, je suis un peu basique, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement sur lequel il obtient un feedback sur comment il a fait les choses ? Un menuisier, il va pouvoir faire une table. Mais un leader, c'est quand même assez virtuel, c'est tous ces processus décisionnels. L'élément de l'exemplarité, ça j'aime bien chez l'autre, ça j'aime pas du tout, nous aide à un moment donné, à quelque part, avec notre lobe frontal, qui nous permet d'avoir un système de jugement. Et le système de jugement, c'est que ça me fait du bien, ça me fait pas du bien, c'est pas juste ou faux, ça c'est autre chose. Je dirais, c'est peut-être plutôt là-dedans. Et l'exemplarité, oui, vous allez aussi capitaliser sur ce que vous êtes capable de faire. On n'a pas tous des mêmes chances à un moment donné, mais on peut les développer. Ça, c'est aussi un aspect. On peut les développer, ce n'est pas parce qu'on a été traumatisé à un moment donné qu'on ne peut pas le faire. Donc ça aussi, c'est une erreur. Ce n'est pas à 25 ans que tout est fait. Donc après, il y a l'autre aspect sur cette modélisation, c'est que moi, je peux me construire aussi. Mais il y a les autres aussi autour. Hein.
On prend volontiers encore une dernière intervention. Joseph ?
Merci, c'était très intéressant. J'ai une question. Dans un monde qui change de plus en plus vite, la tendance qu'on a, c'est voilà, on arrive dans un moment qu'on doit apprendre tout le temps, tout change, et on devient plus global. Et pour moi, ce qu'il n'y a pas, il n'y aura pas une échelle au-dessus de la confiance en l'organisation, que c'est la confiance en le système. C'est quelque chose que je sais, à Silicon Valley, on discute beaucoup. Est-ce que vous placerez où cette... Tout le monde dit c'est les entreprises, les plateformes qui sont capables de donner la confiance, qui sont les plateformes qui seront du succès futur. Comment vous voyez la chose ? Dans un monde que... Je ne sais pas si on peut appeler Internet ou Google une organisation, c'est quelque chose au-dessus de ça.
Alors, ma réponse va être extrêmement influencée par mon arrière-fond. quand même, même si le social m'intéresse beaucoup. Personnellement, je suis assez convaincue que oui, le système, on peut avoir confiance en un système pendant un certain temps, on peut avoir confiance en une organisation quand elle est en phase de transition, on l'a vécu, on a posé sa confiance, et on est tout à fait capable, en tant qu'adulte, grâce à ce lobe frontal qui s'est construit, d'avoir un certain degré, temps de frustration. On est capable de tenir sur un certain temps au niveau d'une frustration. Donc, en clair, on a aussi d'attendre jusqu'à ce que les choses se passent. Lorsque ça devient trop long, à un moment donné, on lâche, on ne veut plus passer à l'action. Donc avoir confiance en un système, je pense néanmoins, il faudrait se poser la question individuellement, est-ce que ce n'est pas aussi avoir confiance en soi que d'avoir confiance en le système ? Là, je relierais certaines verticalités que chacun a à sa manière avec une certaine horizontalité. Actuellement, je rencontre des cadres, il y a une effervescence qu'il faut absolument changer, mais quelque part envers où ? Et le « où » quelque part, il n'est pas dicté par quelqu'un. On est en train de le construire. Peut-être différemment d'avant, ce n'est pas certaines personnes qui nous disent comment faire, mais c'est nous ensemble qui définissons comment. Donc on a besoin de cadres de référence collectifs. Au niveau financier, ça bouge. Au niveau légal, ça bouge. Au niveau des types d'organisation. Personnellement, mais ça c'est moi, c'est ma passion, c'est que moi je trouve ça juste génial, ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, j'ai encore assez confiance et je ne suis pas trop cynique de ce que je rencontre, donc ça tient encore la route. Donc je vérifie aussi chez moi si j'ai encore la stabilité sur les deux jambes pour agir dans cet environnement-là. Ouais. Alors je ne sais pas si...
J'ai juste envie de compléter comment nous avons développé la confiance là, entre nous trois, voire 4, 5 ou plus. Au début, c'était un peu un mode, une grande direction, gestion de projet. Pour cette année, c'était mon rôle, vous l'avez compris. Est-ce que j'ai négocié, discuté dans le moindre détail avec Sybille, l'intervention de l'IEL, sécurité, économique et tout ça ? Absolument pas du tout, non. Il me semble. Tu n'es pas désespéré.
Il y a eu une confiance entre les deux que les choses allaient se passer telles qu'elles devaient se passer aujourd'hui. Mais c'était vraiment quelque chose. Merci encore Alain.
Est-ce que j'ai demandé l'avis des autres, comment je tiens à faire mon introduction comme je l'ai fait ce matin ? Absolument pas du tout. Parce que je savais qu'elle va me suivre.
Oui.
Merci.
Merci beaucoup.